Trump, anatomie d'une révolution.
Arrivé au pouvoir il y a plus de 10 ans, Donald Trump bouleverse les États-Unis et l'ordre mondial. Derrière le chaos apparent se dessine une idéologie structurée, portée par des penseurs encore méconnus en France, entre post-libéralisme et national-conservatisme.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Maya Kandel.
Épisode 1, 2011, l'offense.
Je sais qu'il a essuyé quelques critiques dernièrement, mais personne n'est plus heureux et plus fier que notre ami Donald de pouvoir tirer un trait sur cette histoire d'acte de naissance. Parce que maintenant, il va pouvoir recommencer à se concentrer sur les vraies questions. Est-ce que nous sommes vraiment allés sur la Lune ? Que s'est-il réellement passé à Roswell ? Et qu'est-il arrivé aux rappeurs Biggie et Tupac ? Barack Obama, dîner des correspondants à la Maison-Blanche, le 30 avril 2011. Bonjour Maya Kandel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le principe de cette conversation sur la révolution Trump. Trump, c'est votre sujet d'historienne, vous qui avez publié cette première histoire du Trumpisme chez Gallimard. On a commencé avec une citation de Barack Obama en 2011. On dit souvent que ce moment où Obama humilie Trump, c'est un moment très important dans l'histoire politique de Donald Trump. D'abord, expliquons en un mot le sous-texte de ce que je viens de lire. C'est quoi l'histoire de l'acte de naissance dont parle Obama ?
L'histoire de l'acte de naissance, c'est une théorie du complot, en réalité, qui apparaît en 2008 aux États-Unis, au moment de la campagne d'Obama, et en fait qui va être reprise par Donald Trump dès 2009, et aussi par l'écosystème d'influence russe, puisqu'on a la chaîne Russia Today, qui est un élément important de la diffusion de cette théorie.
Mais la théorie, c'est quoi ?
Alors oui, pardon. La théorie, c'est en fait, c'est une contestation de la légitimité d'Obama, puisque c'est une théorie selon laquelle il ne serait pas né à Hawaï, mais en Afrique. Donc évidemment, c'est très nettement raciste.
Oui.
Et ça le rendrait illégitime, puisque une des conditions pour devenir président des États-Unis, c'est d'être né aux États-Unis. Et c'est un moment très intéressant dans la vie politique de Donald Trump, parce qu'en réalité, Trump, c'est quelqu'un qui, en 2011, en fait, caresse une carrière politique, l'idée d'une carrière politique depuis plusieurs décennies, depuis la fin des années 80. C'est quelqu'un qui, à chaque cycle présidentiel, va dans le New Hampshire, qui a écrit un livre de campagne en 99, un autre en 2009.
Ça lui trotte dans la tête.
Voilà, c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête, mais ce qui va réellement être le moteur de sa carrière politique, en réalité, c'est justement sa reprise du complotisme, et en particulier de cette théorie du complot. Il commence à reprendre ça en 2009, et ça dure donc jusqu'à cet épisode dont on parle, là vous avez ouvert sur cette citation. C'est important aussi cet épisode parce qu'en réalité, en avril 2011, Donald Trump a déjà posé sa candidature aux primaires républicaines. Et il y a à ce moment-là des sondages qui le placent en deuxième position, voire en tête des intentions de vote des républicains. Donc il faut bien voir cet élément comme fondamental dans ce qui va lancer sa carrière politique. Parce que c'est ça qui séduit la base du Parti républicain, les chrétiens évangéliques. Et là, il faudrait parler aussi du mouvement Tea Party, où il y a une part très importante de sentiments de complotisme, qui est une manière un peu d'exprimer l'esprit anti-système.
Et de haine d'Obama.
Et de haine d'Obama, bien évidemment, puisque le point de départ est ce qui fait aussi la virulence et la viralité, en fait, de ses propos, c'est que c'est raciste. C'est quand même un des éléments sous-jacents clairs du mouvement Tea Party, qui est un mouvement avant tout de réaction à l'élection du premier noir à la présidence des États-Unis. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que Trump, à ce moment-là, est extrêmement connu. Il est le héros de la série de télé-réalité The Apprentice depuis 2004, série qui est extrêmement populaire. Trump ne devait faire qu'une saison, il va en faire 11, sur un créneau qui prend la succession de la série Friends sur NBC. Donc c'est quand même...
C'est de la pop culture.
C'est de la pop culture, de toute façon, c'est ce qui résume assez bien Trump, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un élément fondamental, sauf que dans cette fameuse nuit des correspondants...
Oui, parce que quand même, revenons-y, quand même une image incroyable. Vous avez Donald Trump qui est présent, qui regarde Barack Obama se moquer de lui. Tout le monde rigole à ce moment-là. Ça génère quelque chose chez lui de très puissant, de l'ordre du ressentiment, de l'ordre du sentiment de vengeance aussi peut-être.
Alors évidemment, le ressentiment, c'est essentiel chez Trump, chez ses soutiens. chez beaucoup de son entourage aussi. Hein. Donc, c'est une analyse qui vaut aussi pour des personnages comme Charlie Kirk, qui n'avait pas réussi à rentrer à West Point, pour d'autres. Il y a une volonté de revanche, une volonté de...
J.D. Vance.
J.D. Vance aussi, ouais. qui allait à Yale, mais qui s'est senti...
Pas à l'aise.
Pas à l'aise, parce que... les universités sont dominées par une pensée plus de gauche, ou en tout cas c'était le cas jusque récemment. Et donc il y a cette dimension culturelle qui est effectivement essentielle dans le trumpisme dès l'origine, et qui est vraiment, et ce complotisme qui est vraiment un moteur de la carrière politique de Trump.
Mais vous avez dit, en 2011, il est déjà inscrit sur la primaire du New Hampshire, il ne va pas y aller.
En fait, il renonce en mai 2011, et c'est un élément important qui s'est passé entre ce dîner des correspondants et le moment où il renonce, c'est que Obama, enfin les forces spéciales américaines, parviennent à éliminer Oussama Ben Laden.
Oui.
Et donc, il y a un changement de focal à ce moment-là. Bref, Trump ne se sent pas encore prêt, il retire sa candidature, mais 2011, c'est vraiment une année charnière, parce que c'est l'année où il rencontre Steve Bannon, c'est l'année où Steve Bannon rencontre Andrew Breitbart, fondateur de Breitbart News, ils vont relancer ensemble.
C'est vraiment le média complotiste par définition.
Voilà.
Donc, ce qui est intéressant, c'est donc en 2011, il commence, comme notre conversation porte sur la révolution Trump, il commence à y avoir autour de lui des gens qui pensent, des idéologues. Steve Bannon, arrêtons-nous un instant sur lui, parce que qu'est-ce qu'il lui apporte comme idée à Donald Trump ? Et, question subsidiaire, est-ce que Trump, avant Bannon, a déjà une articulation idéologique, ou pas du tout, c'est qu'un homme qui veut faire de l'argent et qui aime le pouvoir et les femmes?
Alors, pour partir de Trump, donc, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a envisagé longtemps une carrière politique. C'est un peu un autre aboutissement de sa carrière. C'est
ouais.
Avant tout quelqu'un qui voulait être célèbre et qui a fait de cette célébrité la source de sa fortune. Voilà. Trump, sur la décennie 2000... il change trois fois d'affiliation partisane. Il passe du parti républicain au parti de Ross Perot, en parti démocrate, puis revient chez les républicains. Il a même soutenu un temps la candidature d'Hillary Clinton en 2008, dans les primaires démocrates. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, sur le plan... Enfin, c'est pas un idéologue, en fait, pour le dire très simplement. En revanche, c'est quelqu'un qui a des idées fixes, qu'on peut appeler des intuitions ou
des obsessions.
Ouais. Voilà, depuis les années 80. En 87, la première fois où il songe à une carrière politique, il publie un texte dans les trois principaux quotidiens du pays, où on retrouve ces deux obsessions vraiment de longue date. L'obsession du déficit commercial, qui explique cette position contre le libre-échange.
À l'époque, avec le Japon, plutôt.
Voilà, c'est par
vraiment le Japon,
au...
c'est moins la Chine.
Ouais. C'est vraiment le Japon, c'est un moment où les États-Unis s'inquiètent de leur déclin face au Japon, ouais. Etc. Donc c'est le Japon. Et puis le deuxième...
D'ailleurs, juste petite parenthèse, pour les gens qui aiment la pop culture, on le voit parfaitement dans Retour vers le futur, où dans le deuxième épisode, il va dans l'avenir, Marty, et il est licencié par son patron japonais. Ça raconte aussi le sentiment à l'époque anti-japonais, en tout cas de crainte que, un peu comme la Chine aujourd'hui, que le Japon va écraser et racheter l'Amérique. Mais
oui,
allez-y.
Absolument. Et on a un livre à l'époque de Paul Kennedy, Ascension déclin des grandes puissances, qui voit le Japon et l'Union européenne, la CE à l'époque, risquer de prendre la place des États-Unis. Bon, on voit que le recul du temps est utile parfois. Et la deuxième idée fixe, obsession de Trump, c'est une vision très particulière des alliances et des alliés. C'est-à-dire qu'il dénonce des alliés ingrats, qui profitent des États-Unis déjà à l'époque. Et alors, à l'époque, encore une fois, il parle du Japon et de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, en fait, l'Europe, ça va apparaître plus tard dans son livre de 2000, où là, tout à coup, il parle de l'OTAN, considère que les États-Unis pourraient économiser tellement d'argent s'ils sortaient de l'OTAN, et qu'après tout, ces pays européens sont riches et parviennent à financer un État-providence pour leurs citoyens, au lieu de financer leur défense, puisque là-dessus, il repose sur les États-Unis. Donc, on a ces deux idées fixes qui sont intéressantes parce que c'est vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de fondamental dans le trumpisme, dans la proposition trumpiste, qui est sur la redéfinition du rapport au monde des États-Unis.
Mmh. Et qu'il avait donc déjà à l'époque. C'est intéressant. Hein, on dit souvent que c'est une girouette, vous l'avez un peu dit d'ailleurs politiquement. Mais quand on écoute ce que vous venez de dire, il y a quand même des obsessions, des certitudes, des intuitions qui sont là depuis des années et des années, avant même qu'il entre en politique les deux pieds dedans.
Absolument. C'est vraiment deux éléments fondamentaux. Par contre, il y a d'autres thèmes, c'est surprenant aujourd'hui, mais par exemple sur l'avortement ou les armes à feu.
Il a beaucoup bougé.
Il a complètement changé de position au gré de ses évolutions, enfin de ses affiliations partisanes.
Alors, on avait commencé à parler de Steve Bannon, qu'il rencontre en 2011. C'est une personnalité très importante dans la sphère trumpiste. Qui est Steve Bannon avant ça? Et que va-t-il lui apporter idéologiquement ?
Alors Bannon, c'est quelqu'un qui va vraiment structurer du point de vue idéologique la première campagne de Trump, et d'ailleurs qui va sauver sa campagne puisqu'il devient directeur de campagne au mois d'août 2016. Bannon, c'est un personnage intéressant parce qu'il a eu de multiples carrières. Il a commencé par s'engager dans la marine américaine. Il était en poste sur un navire en 79 au moment de la crise des otages iraniens, donc ça c'est un élément qui va le marquer. Ensuite, il entame une carrière civile au Pentagone, mais ça va pas assez vite pour lui. Donc il reprend des études, il fait un MBA, il va sur Wall Street, il gagne beaucoup d'argent. Mmh. Et il s'installe ensuite à Hollywood, il crée une société de production de films. Et alors, il va aussi avoir un bref épisode où il travaille pour une compagnie de jeux vidéo, ce qui est assez intéressant.
C'est intéressant.
Parce que c'est à ce moment-là, dans les années 2000, qu'il découvre justement ces communautés de gamers en ligne, et c'est quelque chose qui va beaucoup lui servir. Il le dit, hein, pour redessiner le site de Breitbart News, justement, en faisant vraiment de ça quelque chose d'intermédiaire entre un média de propagande et une communauté, une chaîne Discord.
Et d'ailleurs, il y a le livre de Damien Leloup sur la culture geek et le trumpisme raconte bien ce que vous dites là, à quel point il y a une espèce d'hybridation entre ces mondes qui semblent très éloignés mais qui en fait se retrouvent dans un média qui souvent est le jeu vidéo, le streaming, les podcasts, bref, toute une zone inframédiatique qu'on évoquera dans d'autres épisodes.
Absolument. Et puis Bannon, c'est un grand lecteur, oui. C'est un idéologue, et à partir des années, la fin des années 2000, là, il commence vraiment à se lancer dans la production de documentaires, et en 2011 par exemple, il a produit un documentaire sur Sarah Palin. Sarah Palin, c'est un personnage intéressant aussi. Elle est sur le ticket présidentiel de John McCain en 2008.
Gouverneur de l'Alaska,
ex-Miss Wasilia, personnage qui annonce en quelque sorte le personnage de Trump.
Égérie
du Tea Party. Elle va présider les premiers grands rassemblements du Tea Party. Trump la rencontre aussi d'ailleurs en 2011, toujours cette année, cette année charnière. Et Sarah Palin, elle a quelque chose de trumpiste déjà dans ce franc-parler, de vouloir toujours choquer les bien-pensants, de s'attaquer aux élites, aux médias. Elle a quelque chose de très populiste qui est... Ce que représente en quelque sorte ce mouvement Tea Party, c'est une insurrection populiste au sein du Parti républicain, contre les élites du parti, qui sont à ce moment-là marquées par deux aspects de ce Parti républicain des décennies 80, 90, 2000, c'est-à-dire un côté très ultra-libéral, néolibéral, chambre de commerce, Mitt Romney aussi représente ça, et puis l'influence des néoconservateurs qui ont vraiment dominé la politique étrangère de Bush fils, après les attentats du 11 septembre 2001. Et donc, on a vraiment cette double dimension dans le mouvement Tea Party. Et Bannon fait un film sur Sarah Palin qui s'appelle « L'invaincu ». Et Bannon est aussi quelqu'un qui se lie à ce moment-là avec Nigel Farage, donc
l'anglais l'homme du Brexit.
Voilà.
Bientôt,
on est ils vont d'ailleurs avant, travailler ensemble sur la campagne du Brexit. Bref, il théorise en fait ce qu'il voit arriver aux États-Unis et dans le monde occidental plus largement, qui est un moment populiste, un moment national populiste. Et c'est lui qui va souffler à Trump cette idée. Vous êtes un populiste, vous êtes un nationaliste, et qui lui souffle aussi le slogan « America first », que Trump n'est pas le premier à utiliser, mais qui va devenir vraiment le marqueur de son mouvement.
Il en fait son champion, mais en 2011, vous l'avez dit, il renonce finalement à se présenter, considérant à juste titre qu'Obama est certainement appelé à un deuxième mandat. En revanche, en 2015, il décide de se lancer. Ça sera l'objet du prochain épisode. Trump, Anatomie d'une révolution, est un podcast original de France Inter.